podcast France Culture.
Décembre 1981, la Pologne ne répond plus.
Mówi Radio Wolna Europa, głos wolnej Polski.
Troisième épisode, la résistance jamais vaincue.
La Pologne sous une main de fer, c'est un véritable coup de théâtre qui s'est joué cette nuit à Varsovie.
Interactualité 13h, dimanche 13 décembre 1981.
L'armée a pris le contrôle de la situation, l'état de siège a été proclamé. Avec vous, Ulysse Gosset, reprenons donc, heure par heure, le film des événements.
Le coup de force du général Jaruzelski a duré moins de 8 heures. Il a commencé hier soir à 23h et s'est terminé ce matin un peu après 6h. Le détonateur, c'est une double décision de solidarité. Le syndicat réuni à Gdansk menace d'appeler à la grève générale si le Parlement vote des lois anti-grève. Il décide également d'organiser avant le 15 janvier un référendum sur les méthodes du pouvoir en Pologne. Il est alors 22h, la neige tombe sur Gdansk et sur Varsovie. 60 minutes plus tard, toutes les lignes téléphoniques, les téléx des agences de presse étrangères et de la section Solidarité de la capitale sont coupées. Des miliciens très nombreux encerclent le siège de Solidarité à Varsovie. À 3h du matin, cet immeuble est occupé par les forces de l'ordre. Quelques instants plus tard, l'un des principaux dirigeants de Solidarité, le patron du syndicat de Lech Walesa à Varsovie, Krzysztof Sliwiński, est arrêté brutalement par les policiers. À Gdansk, même scénario pour les responsables de Solidarité, mais Walesa lui-même reste en liberté surveillée. À 5h, l'armée montre ses dents à Varsovie. Des soldats à bord de jeeps et de camions militaires patrouillent dans Varsovie avec les policiers de la milice. Tous les carrefours et les immeubles stratégiques sont sévèrement gardés. Enfin, dernière étape à 6h du matin, écoutez.
Obywatelki i obywatele Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Citoyennes et citoyens de la République populaire de Pologne.
Jako żołnierz.
Je m'adresse à vous aujourd'hui en tant que soldat et en tant que chef du gouvernement polonais. Je m'adresse à vous pour des affaires de la plus haute importance. Notre patrie se retrouvait au bord de la
nuit.
La maison polonaise, fruit du travail de nombreuses générations, reconstruite sur les cendres, les structures de l'État cessent de fonctionner. De nouveaux coups sont portés chaque jour à une économie moribonde. Les grèves, les préavis de grève, les actions de protestation sont devenues l'eau quotidien. On y entraîne même les écoliers. Il a manqué la direction des solidarités autour de la table commune. Les débats de Gdańsk ont dévoilé définitivement les véritables intentions de ces milieux dirigeants. Ces intentions sont confirmées à une échelle massive par la pratique quotidienne. Par l'agressivité croissante des extrémistes, par la recherche ouverte du démembrement total du caractère socialiste de l'État polonais. Conformément aux dispositions de la Constitution, le Conseil d'État a déclaré aujourd'hui à minuit l'état de guerre sur l'ensemble du territoire. Je veux que tout le monde comprenne les raisons et les buts de notre action.
Il faut rappeler que de nombreux hommes politiques, des dissidents et la plupart des dirigeants importants de Solidarité ont été emprisonnés, sauf Lech Walesa. Les autorités lui ont donné le choix entre la prison ou la négociation forcée.
Oui, et puis je vous rappelle cette nouvelle qui vient de tomber, juste avant que ce journal ne commence. Le couvre-feu est instauré donc en Pologne de 22h à 6h. C'est ce que vient d'annoncer le ministre de l'Intérieur polonais dans un communiqué diffusé à la radio.
État de siège, cela signifie d'abord que tous les pouvoirs passent aux mains des militaires. Tout fonctionnaire, toute personne exerçant des fonctions vitales pour le pays se retrouve sous les ordres de l'armée. La peine de mort sera appliquée à ceux qui refuseraient de se plier à leurs directives.
Mathieu Żuławski, professeur de français et traducteur.
On a branché la télé, aucun programme, rien du tout. Et puis après, on a vu le général Jaruzelski en uniforme qui s'adressait à la nation en annonçant la mauvaise nouvelle. Ça, c'était la façon dont on a pratiquement tous, à part ceux qui ont été embarqués pendant la nuit par la police politique, on a tous appris ce qui s'était passé, quoi. Tout d'abord, ce fut l'étonnement, puis un choc, puis, je dirais même, pour moi, c'était un traumatisme. C'est comme si quelqu'un, un géant, m'avait foutu une baffe et que je m'en étais pas remis pendant vraiment très très longtemps. C'était une douleur psychique et physique en même temps. Parce que c'est là que j'ai compris que je vivais dans un pays où il se passait des choses inconcevables et que tous les efforts qui avaient été faits pour que la Pologne s'engage dans une nouvelle voie tout d'un coup, tout ça, ça a disparu.
Tout Polonais de plus de 17 ans, susceptible de troubler l'ordre, pourra être emprisonné sur simple décision de la milice.
Jean-Paul II vient de réagir.
Interactualité, 13h, 13 décembre 1981.
Il a exprimé son inquiétude à la fin de son allocution dominicale habituelle. Le pape a parlé en polonais à l'intention d'une centaine de pèlerins de son pays. Je vous propose de l'écouter et d'entendre la traduction de ces quelques mots.
Les événements des dernières heures m'obligent de m'adresser encore une fois à tous au sujet de notre patrie commune, vous demandant des prières. Je vous rappelle ce que je vous ai dit au mois de septembre. On ne peut plus faire couler le sang polonais, car trop de sang polonais a été versé au cours de la dernière guerre. Il faut tout faire afin de bâtir l'avenir de la patrie dans la paix.
Toute réunion, manifestation sportive, spectacle sont interdits sauf autorisation préalable.
Maria Miralowska.
Le réflexe, c'est d'aller à l'église, parce que l'église était encore cet endroit libre où on pourrait se contacter, échanger nos opinions. Et voilà, l'église, c'est, vous savez, une image très polonaise, où les uns pleuraient, les autres priaient. Nous avons chanté les cantiques mi-patriotiques, mi-religieuses. Vous voyez, l'état des guerres n'a rien changé dans les comportements des gens. Et au contraire, ça a renforcé la volonté de se battre. Des bougies, par exemple. Qu'est-ce qu'il peut faire le flic? Il ne va pas tirer sur la fenêtre. Presque dans toutes les fenêtres, il y avait des bougies. Ça veut dire que nous sommes contre les régimes communistes. Les bougies! Rien de plus innocent qu'une bougie.
Toutes les armes, armes de chasse et armes blanches comprises, doivent être mises avant demain matin 6h.
Le rôle de Jean-Paul II est essentiel. Il ne faut jamais oublier que c'est le premier et le dernier pape qui a vécu sous le communisme, qui savait très bien ce que c'était les mécanismes de contrainte, de coercition du communisme, la domination communiste.
Georges Mink, sociologue et politologue.
Et donc il a bâti une stratégie extrêmement astucieuse qui consistait à entrer en dialogue avec les communistes pour obtenir de leur part la possibilité de faire des pèlerinages dans sa patrie natale, en Pologne. Et pendant ces pèlerinages, où il y avait des millions de croyants qui se réunissaient sur le parcours de Jean-Paul II, il lançait des petits messages d'encouragement à la résistance en réalité, et aussi essayait de faire comprendre à ceux qui étaient tentés par l'opportunisme, par la soumission aux communistes, par aussi l'idée du fatalisme, que ça ne pourra pas changer, de leur donner du courage en leur donnant des valeurs. Et ça, c'était très fort, bien sûr, lorsqu'il a dit aux Polonais, pendant la grande messe à Varsovie, de n'avoir pas peur. C'est resté dans la mémoire pendant plusieurs années encore d'oppression et a certainement contribué à la résistance des Polonais.
Toute presse est interdite. Seuls les journaux du Parti communiste et de l'armée pourront paraître.
Dorota Stetsfus.
Le 13 décembre, je me suis levée tôt, comme d'habitude. J'ai allumé la télé et j'ai vu un monsieur en uniforme. J'ai ainsi appris que l'état de guerre était déclaré. Cette nouvelle réalité était radicalement différente de celle que j'avais quittée la veille. Je me suis habillée rapidement et j'ai couru au bureau de la direction régionale de Solidarność, où je travaillais au service information en tant que journaliste. Le bâtiment était entouré par la milice. Très rapidement, j'ai rencontré des collègues qui m'ont mise en garde et m'ont conseillé de ne pas m'en approcher, car je risquais l'arrestation et l'internement. Notre équipe rédactionnelle s'est réunie dans un appartement et nous avons décidé de sortir le journal. D'une manière illégale? Bien sûr, tout était illégal. Tout se faisait dans le secret le plus total. L'hiver était rude, il était difficile de se déplacer.
Nie wiem, skąd ta maszyna była. Napisaliśmy aktualności.
Nous avons rédigé nos articles, délivrant les informations essentielles sur cette journée. Nous avons imprimé le journal sur une Roneo et l'avons distribué le lendemain.
Où?
Surtout dans les églises, mais aussi dans les universités, particulièrement l'école des mines et l'université Jagiellon.
Toutes les écoles, des maternelles aux universités, sont fermées jusqu'à nouvel ordre.
Pile à minuit, ils ont frappé à la porte, je n'ai pas résisté.
Robert Kaczmarek.
J'ai lu le papier d'internement, et je les ai suivis. Ils nous ont ramenés aux prisons de Wisznice et ils nous ont mis dans une cellule à 30 personnes. Il y avait l'incertitude de ce qui va se passer. Certains pensaient à déportation, d'autres pensaient à une possible révolte populaire qui ne s'est pas produite. La vie était assez monotone, mais tranquille. On sortait chaque jour sur la promenade. Puis on revenait dans la cellule, on se racontait des choses. On chantait parfois. C'est interdit de chanter, alors ils intervenaient. Il y avait plusieurs révoltes, là. Il y en avait une quand l'un de nos copains était mis dans une cellule d'isolation. On a refusé de rentrer dans notre cellule, ce qui nous a valu une visite d'une vingtaine des homos, des policiers d'action brutale, et avec la matraque. Il y en avait une autre révolte, notamment après 2 semaines, ils voulaient nous transporter ailleurs. On a refusé de partir tant qu'ils ne nous dévoilent pas notre destination. Et encore, il y avait la visite des homos. C'était pas évident de négocier avec les homos visiblement drogués ou ivres et menaçants.
Les frontières sont fermées ainsi que l'espace aérien.
Souvenirs croisés de Dagmar Akaban et Agnieszka Żuk.
Le 13 décembre 1981, j'avais 15 ans, j'avais 7 ans, c'était un dimanche. Et je me suis réveillée le matin et comme beaucoup de jeunes Polonais, j'allais vers la télévision pour regarder une mini-série polonaise pour les jeunes publics.
Une émission qui s'appelle Teleranek. Et la télé ne marchait pas, il y avait ces fameux grésillements.
Je pensais au départ que c'était une panne générale. Et ensuite, le téléphone était coupé aussi. Et là, je me souviens très très bien, ça m'a fait un tilt, un coup de peur. Tout de suite, j'ai su qu'il y avait quelque chose, que ce n'est pas innocent s'il y a la télévision qui ne fonctionne pas, et en même temps, le téléphone.
Il y avait plusieurs personnes dans la cuisine, plusieurs voisins qui étaient déjà là et qui étaient en train de boire du thé. Ils étaient tendus, donc ils étaient en train de parler, ils étaient en train de fumer. On ne fumait pas chez nous à la maison, donc c'était inhabituel.
Et là, on sort à l'ancienne sur les paliers. Et il y a quelqu'un qui nous informait qu'il y a l'état de guerre qui était prononcé par l'État polonais.
Et après, j'ai l'impression d'avoir vu la tête de Wojciech Jaruzelski à la télé qui annonçait la loi martiale.
Il y avait la peur tout de suite, il y avait la peur qui s'est installée de ce qui va nous arriver, qu'est-ce que ça voudrait dire. Et ensuite, il y avait les discours de Wojciech Jaruzelski qui étaient répétés toutes les demi-heures à la télévision, où il a justifié l'état de guerre qui devait sauver notre pays du déclin.
Je me souviens des tanks et des traces noires dans la neige.
À côté de notre église, il y avait 3 chars, donc c'était bizarre. Moi, après, j'avoue que j'ai un blanc. Je ne me souviens pas de détails. Et ma mère, à l'époque, elle avait 55 ans. Aujourd'hui, elle a 90, mais plutôt une bonne mémoire. Elle se souvient de rien. Donc il y a un peu un blanc, quelque chose de, je ne sais pas, traumatique peut-être. Et puis je posais des questions aussi à 2 amis. Et pareil, les souvenirs surgissent d'après, de plus tard, 1 mois plus tard, janvier, février. Mais la période immédiate, 1 à 2 semaines, je me souviens de rien. Je pense que les écoles étaient fermées, les lieux de travail aussi, les universités, ça c'est sûr. Mais je n'ai aucun souvenir. Qu'est-ce qu'on faisait à la maison? Quelles étaient nos discussions? Rien.
Il y avait le couvre-feu. Les gens ne pouvaient pas sortir. Donc il y avait une atmosphère très particulière dans notre tour. Je sais qu'il y avait beaucoup de fêtes le soir. Les adultes ne pouvaient pas sortir. Et puis il y avait une sorte d'ambiance de fin du monde. Des gens qui faisaient du ski dans la cage d'escalier. Enfin, c'était vraiment une ambiance de fou. Et les Polonais ont cette façon de... Quand ça va mal, ils aiment bien rigoler. Donc je me souviens des adultes qui étaient bourrés, qui chantaient, qui rigolaient, etc. Et quand il n'y avait pas de lumière, on s'éclairait à la bougie.
Je pense qu'on était en état de sidération, comme beaucoup de Polonais. Il y a un état d'amnésie totale. Noël, aucun souvenir, rien.
Acheter un morceau de viande, des chaussures, tout ça, c'était compliqué. Mais ce dont je me souviens aussi, c'est que les gens étaient beaucoup ensemble et qu'ils s'entraidaient, et qu'on se sentait un peu comme dans une grande maison.
L'état de sidération est passé quand j'ai commencé à me promener dans les rues de Varsovie, et notamment rue Puławska, qui se trouve dans le quartier de Mokotów. Là, il y a un film qui était joué juste avant l'état de guerre, « Les temps d'Apocalypse »,« Apocalypse Now » de Francis Coppola. Et il y a un photographe qui a pris une photo. Donc, il y a ce cinéma qui s'appelait « Moscou »,« Moskva », où on voit une affiche, donc « Les temps d'Apocalypse », où au-dessous de l'affiche, on voit un tank et on voit les militaires. On voit la neige. Et donc, ces trois superpositions du nom de cinéma Moscou, temps d'apocalypse que tout le monde a vu, et au-dessus, les chars, c'était vraiment une grande réussite. Cette photo très parlante, c'est assez marquant pour moi. Il y avait quand même une anecdote qui nous a tous marqués. Toutes les conversations étaient coupées par une annonce d'une voix automatique. « Conversation contrôlée ». « Rozmowa kontrolowana », exactement. Et donc pour nous tous, même si la situation était grave, c'était ridicule parce qu'on savait pertinemment qu'il n'y a pas assez de gens pour écouter toutes les conversations. À l'époque, il n'y avait pas, heureusement, l'intelligence artificielle pour rattraper les mots.
Tout déplacement pour plus de 48 heures à l'intérieur de la Pologne sera soumis à autorisation préalable.
À Moscou, la télévision et la radio soviétiques ont annoncé très vite la proclamation de l'état de siège en Pologne.
Interactualité 13h, dimanche 13 décembre 1980.
Sur place à Moscou pour France Inter, Jean-Pierre Kittard.
Satisfaction et soulagement, voilà très certainement les deux sentiments les plus répandus ce matin dans les couloirs du Kremlin. Satisfaction, parce que le général Jaruzelski a fait preuve cette nuit d'une volonté et d'une autorité que Moscou n'espérait plus et qui règle pour un temps la crise polonaise et les dangers qu'elle faisait peser sur le bloc de l'Est. Soulagement, parce que cette opération de police, ce grand nettoyage par le vide, les soviétiques n'auront pas à le faire eux-mêmes, soit directement, soit par l'intermédiaire de leurs alliés du pacte de Varsovie. Et pour l'image de marque des dirigeants soviétiques, il était essentiel que ce soit le parti et le gouvernement de Varsovie qui donnent ce grand coup de balai. En revanche, si comme beaucoup le redoutent ici et là, ce coup d'autorité du général Jaruzelski débouche sur un affrontement, voire une guerre civile en Pologne, à ce moment-là, le Kremlin ne pourra pas rester les bras croisés, et ce, quelles que soient les conséquences internationales d'une intervention directe de l'armée rouge.
À suivre, des morts pour l'histoire.